Voilà, donc normalement, tout le monde nous a rejoints, les paramètres techniques sont fixés. On va pouvoir commencer ce séminaire jeune docteur, qui aujourd'hui porte pas très bien son nom en réalité, parce que le jeune docteur en question est déjà en poste et on l'en félicite à nouveau. C'est Claire Saunier qui aujourd'hui participe et ça me donne l'occasion de la remercier à nouveau d'avoir accepté de se prêter à cette petite présentation de ses travaux de recherche en thèse, donc dirigée par Denis Barranger à l'Université Paris 2, et remercier également les deux co-organisatrices en réalité de cet atelier, que sont Marcia Chevrier et Laura André. Merci à elles pour l'organisation technique, en fait, matérielle dont elles se sont chargées et dont elles vont continuer à se charger courageusement pour le reste des séminaires qui vont courir jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y en aura d'autres. On reviendra sur ce point à la fin de la présentation. Mais d'autres rendez-vous sont prévus et on espère évidemment vous voir à nouveau nombreux pour les prochaines séances. Voilà, donc je laisse la parole aux organisatrices en les remerciant à nouveau.
Merci. Du coup, bon, avant tout, on voudrait aussi, donc je vais remercier en mon nom et au nom de Laura André, du coup, qui a aidé à, enfin, qui a organisé avec moi ce premier séminaire. Donc, on voudrait d'une part d'abord remercier Claire Saunier d'avoir accepté de venir nous parler de sa thèse lors de cette première séance des séminaires jeunes docteurs de l'Institut Villée. Nos remerciements vont également vers le professeur Barranger qui nous a fait confiance pour mettre en œuvre cette initiative qui, devrait être enrichissante à la fois sur le fond des réflexions des jeunes docteurs de l'Institut, mais aussi potentiellement sur la forme et sur le travail de thèse en général. Enfin, nos remerciements s'adressent également donc, à Thibaut Desmoulins, qui nous a guidés dans l'organisation de cette première séance, ainsi qu'au secrétariat de l'Institut Villée. Donc, pour cette première séance, on est heureux de pouvoir accueillir Claire Saunier, qui a soutenu donc, en novembre 2019, comme ça a déjà été dit, une thèse réalisée au sein de l'Institut, sous la direction du directeur de l'Institut, donc le professeur Barranger, et qui s'intitule La doctrine des questions politiques, études comparées, Angleterre, France, États-Unis. Et donc, comme ça a été dit également déjà, elle a depuis été qualifiée par le CNU et nommée maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil. La thèse qu'elle vient nous présenter aujourd'hui porte donc sur une étude comparée de trois États au système juridique pourtant a priori assez différent, puisque elle compare le système juridique français de tradition romano-germanique avec celui des systèmes américains, mais surtout britanniques, étendard donc de la tradition de common law. Pour l'introduire vraiment très très brièvement et en espérant que je ne vais pas trop trahir son propos, ce qu'elle ne manquera pas de m'indiquer le cas échéant, j'en suis sûre. Elle part du constat que la doctrine des questions politiques présentée dans sa thèse existe donc dans les trois systèmes juridiques, et ce d'une manière finalement assez similaire dans son traitement tant par la doctrine que par les juridictions des trois États. Et donc l'étude comparée permet d'observer au travers des actes de gouvernement et des actes parlementaires du système français et des actes of state britanniques et des political questions américaines, que finalement, loin d'être ce qu'elle paraît au départ, cette doctrine des questions politiques, loin d'être une restriction par le juge de son propre domaine de compétence, ces catégories jurisprudentielles, dessinées par de la main du juge lui-même, viennent lui permettre plutôt de gérer personnellement le périmètre de sa compétence, en plaçant donc à son gré le curseur de séparation entre droit et politique, ce qui insère la thèse en réalité dans, il me semble, le mouvement de ce qu'on a pu appeler le droit politique, qui est au cœur même du travail de l'Institut Villée, si on peut dire ça comme ça. Donc à la suite de la présentation, une discussion donc s'engagera à la fois donc sur le fond des réflexions et sur le fond de la présentation qui va être faite, mais aussi pour les doctorants, donc c'est l'objectif de ces séminaires, potentiellement sur la méthode de la thèse et sur le travail de thèse plus généralement. Donc voilà, simplement quelques mots de présentation. On remercie encore Claire et puis je vais lui laisser la parole.
Merci Marcia, tu as tout dit, je n'ai plus rien à ajouter. Non, je te remercie beaucoup et je remercie également Laura et Thibault pour avoir organisé ce séminaire. Et plus généralement, l'Institut Villée, je suis contente d'y revenir, même si ce n'est que virtuellement pour le moment. Donc effectivement, je trouve que c'est en plus une très bonne initiative parce qu'on a finalement assez peu l'occasion de présenter sa thèse, du moins dans des conditions de temps aussi privilégiées. Mais je vais essayer de ne pas abuser de mon temps et de vous parler globalement 30 minutes, de vous présenter les grands enjeux, les grands axes de ma thèse. Et effectivement, après, on aura l'occasion d'échanger ensemble. Voilà. Alors, avant même de vous exposer les apports de ma thèse, il faut que je vous dise un mot de sa genèse, de la genèse de ce sujet, pourquoi m'être intéressée à la doctrine des questions politiques et également pourquoi l'avoir fait dans une perspective comparatiste. C'est mon directeur de thèse, le professeur Barranger, qui m'a suggéré de m'intéresser à ce qui est devenu donc le sujet de ma thèse par la suite, la doctrine des questions politiques, et de le faire en droit comparé américain, britannique et français. Cette proposition, elle faisait suite aux recherches que j'avais pu mener en Master 2, en Master 2 de droit public approfondi, à travers un mémoire relatif à la désobéissance civile sous la Ve République. Le professeur Barranger avait été dans le jury de soutenance et il avait à cette occasion bien compris que la question qui m'intéressait, c'était celle de la délimitation du droit, et c'était celle sur laquelle j'avais envie de poursuivre mes recherches. Plus précisément, mon envie était de réfléchir au rapport entre droit et politique. Le constat qui était le mien à l'époque, et qui d'ailleurs n'a pas fondamentalement changé, était le suivant. La question des rapports entre droit et politique n'est pas ignorée par la doctrine juridique, bien au contraire. Les juristes ont multiplié les tentatives de définition du droit, et ces tentatives se sont généralement accompagnées par un même constat, une même conclusion. Il faudrait dissocier la matière juridique vis-à-vis de la matière politique. Pour le dire simplement, les écrits de la doctrine juridique contemporaine continuent de refléter une vision dichotomique du droit et du politique, vision dichotomique qui constitue finalement le point de départ du constitutionnalisme moderne. Pour penser la soumission des gouvernements au droit, il a fallu d'abord opérer une dissociation théorique entre droit et politique, et ensuite envisager une hiérarchisation entre ces deux matières. Pour le dire autrement, une subordination du politique au droit. Cette idée de subordination, c'est finalement celle qu'on retrouve au cœur des théories d'état de droit et de rule of law, même si c'est effectivement des théories qui présentent des différences, mais en tout cas, elles suggèrent toutes deux que l'action des gouvernants doit être soumise à des règles ou à des principes juridiques. Il s'agit là d'ailleurs d'une idée qui dépasse la sphère des juristes, puisqu'il est désormais commun, consensuel, de penser que la légitimité des gouvernants est dépendante du respect des règles de droit. Encore faudra-t-il dire ce que cela signifie. En dépit de cet accord, donc de cette affirmation d'une nécessaire subordination du politique au droit, il faut admettre que les tentatives de définition du droit, ou du politique d'ailleurs, restent relativement insatisfaisantes. C'était mon premier constat. Certes, les juristes n'ont de cesse de rappeler l'existence d'une matière juridique distincte de la matière politique. En revanche, ils semblent peiner à établir des critères d'identification plus clairs, plus précis, de l'objet d'étude qui est le leur. Pour prouver ce que je vous dis là, je me permets de vous mentionner deux numéros de la revue Droit que j'avais découvert d'ailleurs plutôt à la fin de mes recherches, qui sont intitulés Définir le droit 1 et Définir le droit 2 en 1990. Ces deux numéros dans lesquels le professeur Riels avait invité les auteurs à enquêter sur la notion de droit. Et ce qu'on constate à la lecture des différentes contributions, c'est finalement une certaine résignation des juristes pour définir leur objet. Pour ne prendre que deux exemples, Jean Carbonnier concède ainsi qu'il faut reconnaître qu'il existe, je le cite, une multiplicité de définitions du droit. Et Georges Vedel va encore plus loin puisqu'il confesse quant à lui, je cite, qu'il se résigne à faire du droit sans en avoir une bonne définition. Donc la décision de mener une réflexion sur la doctrine des questions politiques repose sur la volonté de dépasser cette aporie, ou du moins cette apparente aporie. La doctrine des questions politiques, en effet, peut apparaître comme la traduction contentieuse de ce débat. Sous ce terme de doctrine des questions politiques, que j'ai d'ailleurs emprunté à la jurisprudence américaine, j'ai regroupé diverses catégories jurisprudentielles On peut mentionner, pour le cas français, l'acte de gouvernement, l'acte parlementaire ou encore la question de société. Pour le cas britannique, les actes de prérogative royale, voire les actes d'act of state. Et enfin, du coup, les political questions pour les États-Unis. Ces catégories ont bien évidemment un point commun. Lorsqu'il y fait référence, le juge se déclare incompétent à connaître du litige, car ce litige serait réputé être d'une nature spécifique, justifiant l'irrecevabilité du recours à l'encontre d'un acte administratif ou d'une loi. Mon idée n'était pas, dans cette thèse, d'établir un panorama exhaustif de ces litiges, ou même de traiter ces questions uniquement sous un angle contentieux. De toute façon, la doctrine française regorgeait déjà d'études de ce type. La perspective qui a été la mienne était légèrement différente. J'ai envisagé la catégorie des questions politiques avant tout comme un moyen pour renouveler la compréhension des rapports entre droit et politique, et plus précisément encore, la manière dont ces rapports étaient définis ou tout du moins présentés par les juges. Dans cette perspective, la mobilisation du droit comparé, et en l'occurrence du droit britannique et du droit américain, m'est apparue assez rapidement pertinente, et ce en raison d'un premier constat que Marcia soulevait tout à l'heure, c'est celui de l'apparente identité matérielle des litiges concernés par la doctrine des questions politiques. En effet, il suffit de jeter un bref regard sur les jurisprudences françaises, britanniques et américaines, pour se rendre compte que les juges ont tendance à identifier de telles questions politiques au sein de deux mêmes domaines. Les rapports entre organes constitutionnels d'une part et la conduite des relations internationales d'autre part. Je suppose que je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il s'agit là des deux domaines d'élection de l'acte de gouvernement dans la jurisprudence administrative française. Ce qu'il faut savoir, c'est que les actes écartés du prétoire américain ou britannique ont également trait à ces deux grands domaines. Au-delà de cette ressemblance d'un point de vue contentieux, j'ai également rapidement constaté, j'y reviendrai plus tard, l'existence de certaines constances, cette fois-ci dans les approches doctrinales de la question politique. On verra effectivement que dans ces trois laboratoires d'études, les différents courants doctrinaux, les différentes tentatives de rationalisation de la question politique présentent des traits communs. Donc, en résumé, la doctrine des questions politiques, tout comme d'ailleurs l'approche comparatiste, n'ont pas tant été l'objet de ma thèse, contrairement à ce que pouvait laisser penser le titre de la thèse, mais plutôt un instrument au service d'une réflexion plus large sur l'articulation du droit et du politique, ou même pour être plus précis, sur les discours portés sur l'articulation du droit et du politique. Ainsi, la problématique de la thèse, si on peut le dire ainsi, a été de voir comment ce discours, notamment porté par le juge, mais pas seulement, a pu participer à définir certains aspects fondamentaux des systèmes constitutionnels contemporains. Donc, pour ce faire, je me suis bien évidemment d'abord penchée sur la jurisprudence, mais aussi sur les commentaires qu'elle a pu susciter. Ça m'a permis de mettre en avant deux grandes idées qui sont finalement devenues les deux grandes parties de ma thèse. Tout d'abord, dans un premier temps, j'ai cherché à démontrer que la doctrine des questions politiques devait d'abord être comprise comme un moyen de préserver l'image apolitique du jugement. C'est ma première grande partie. Je vais reprendre mes deux grandes parties de thèse. Dans un deuxième temps, en portant sans doute un regard plus critique sur les discours relatifs à la question politique, j'ai proposé d'envisager le droit et le politique avant tout comme de simples labels apposés par le juge et ayant des implications concrètes sur l'équilibre constitutionnel. C'est ma deuxième grande partie. Donc, tout d'abord, je reprends exactement le titre de ma première partie, la doctrine des questions politiques, élément de construction d'une image apolitique du jugement. Dans cette première partie, j'ai considéré qu'il fallait en premier lieu revenir sur la manière dont s'était progressivement construite ce que j'ai appelé l'image apolitique du jugement. Et il faut bien évidemment que je vous précise un instant ce que j'entends par apolitique. Il y a une définition de la politisation qui a retenu mon attention, parce qu'à mon sens, elle permet clairement de décrire le phénomène que l'on observe lorsqu'on se penche sur la jurisprudence et sur les commentaires relatifs à la doctrine des questions politiques. Cette définition, c'est celle du sociologue Jacques Lagroix, qui a donc dirigé un ouvrage qui s'appelle d'ailleurs « La politisation ». Et en fait, il observe, son point de départ, c'est d'observer une constante sociologique qui serait la suivante, je le cite, « L'ensemble des pratiques sociales travaille en quelque sorte à produire une différenciation des rôles ». En fait, ce qu'il constate, c'est que dans tous les domaines d'activité, les acteurs ont tendance à asseoir leur légitimité sur une sectorisation de leur espace d'activité, ou pour le dire avec des mots qui parlent plus aux juristes, sur une spécialisation des fonctions. Donc, partant de cette idée, la politisation désignerait un phénomène de remise en question de cette définition des rôles. Pour appliquer ça au cas qui nous intéresse, serait politisée l'attitude d'un juge réputé sortir de sa sphère d'action spécifique ou qui userait de méthodes non juridiques. Si on en revient spécifiquement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'activité du juge, on constate effectivement que la question de la politisation des jugements est omniprésente. Dans chacun des trois systèmes que j'ai pu étudier, l'idée d'une distinction entre le processus de délibération politique et le règlement juridictionnel des litiges est sans cesse affirmée. Pourquoi ? Pourquoi ce besoin de dissociation ? Tout simplement parce que les juges ont besoin d'asseoir leur légitimité, ont eu besoin d'asseoir leur légitimité au fur et à mesure que se développait le contrôle juridictionnel. Pour ce faire, ils n'ont eu de cesse de faire la démonstration de la spécificité de leur fonction, en la distinguant de celle des gouvernants. D'ailleurs, même aux États-Unis, où le rôle politique de la Cour suprême est bien plus aisément admis, la spécificité de la fonction juridictionnelle par rapport à l'activité des autres branches de gouvernement est également présentée comme nécessaire au sein d'un système démocratique. En ce sens, il est intéressant de constater que le courant réaliste de l'interprétation n'a pas remis en cause, ou du moins pas totalement, cette image apolitique du jugement, c'est-à-dire donc cette spécificité de la fonction juridictionnelle. Certes, l'image d'un juge entièrement contraint par des énoncés juridiques dont la signification serait unique et évidente ne semble aujourd'hui plus d'actualité, relativement obsolète. Toutefois, force est de constater que les décisions juridictionnelles demeurent encore et toujours présentées comme éminemment contraintes, ou tout du moins plus contrainte que celle émanant des organes politiques. Cette idée de contrainte, elle ressort en premier lieu des décisions de justice elles-mêmes. En France, aux États-Unis et en Angleterre, les juges ne peuvent pas s'affranchir d'un certain mode de justification propre à démontrer leur soumission aux règles de droit. Sur ce point spécifique, c'est quelque chose que j'ai développé dans la thèse, je le dis rapidement et je pourrais creuser peut-être plus tard, j'ai tenu à nuancer une comparaison, à mon sens, souvent caricaturale qui est faite entre les motivations des juges français et des juges de common law. Contrairement à ce qui est parfois affirmé trop rapidement, le devoir de fidélité au texte, qui est particulièrement perceptible dans la décision française, n'est bien évidemment pas étranger aux juges anglais et américains. Au-delà de ces contraintes d'ordre argumentatif, si on peut dire, les juridictions françaises comme anglaises et américaines sont sujettes à des contraintes d'ordre institutionnel. Là encore, il y aurait beaucoup à dire parce que les mécanismes ne sont pas exactement les mêmes dans les trois systèmes. Un autre point important que j'ai développé dans ma thèse, c'est la manière dont a pu perdurer cette image apolitique. Pour expliquer cela, j'ai largement insisté sur le fait que cette image apolitique n'aurait pas pu tenir si elle avait été uniquement soutenue par le discours des juges. En ce sens, je reprends un argument qu'on trouve déjà chez Duncan Kennedy dans sa « Critique of Adjudication ». Son idée, c'est qu'en fait, il existerait un déni collectif du caractère idéologique politisé des décisions de justice. C'est-à-dire qu'il y aurait une convergence d'intérêts de la part des juges, des autres branches du gouvernement, voire même de la doctrine juridique et de la population, qui ont tout un intérêt finalement à ce que les décisions juridictionnelles soient considérées comme apolitiques. Encore une fois, j'entends apolitique comme distincte des décisions des organes politiques. Bien évidemment, Au milieu de ces remarques un peu plus générales, l'un des points importants de la thèse a été de démontrer comment la doctrine des questions politiques participe de l'élaboration de cette image apolitique du jugement. Certes, les juges font d'ores et déjà la démonstration des limites de leur office par le biais d'autres conditions de recevabilité des litiges. De nombreux auteurs, d'ailleurs, ont cherché à minimiser, voire à nier entièrement la spécificité de la doctrine des questions politiques. On pourra y revenir, mais généralement, en la diluant dans les autres causes d'injusticiabilité ou en la rapprochant de la notion de pouvoir discrétionnaire. Mais ces différentes théories, elles ne m'ont pas semblé véritablement convaincantes, tout simplement parce qu'elles ne reflètent pas la jurisprudence. La jurisprudence ne fait aucunement disparaître la question politique, elle ne la confond pas avec d'autres causes d'irrecevabilité. Ce que j'ai soutenu en revanche, c'est l'idée que la doctrine des questions politiques occupe une place particulière au sein de la problématique de l'injusticiabilité. Elle occupe une place particulière parce qu'elle endosse une fonction spécifique. Cette fonction spécifique, elle se donne à voir lorsque l'on observe l'évolution des autres critères de justiciabilité. À l'évidence, et c'est le cas dans les trois systèmes que j'ai étudiés, on assiste à un assouplissement croissant des conditions d'accès au juge. Cet assouplissement est passé, toujours dans les trois systèmes d'ailleurs, par la prise en compte croissante des intérêts des justiciables. La raison ou les raisons de cet assouplissement sont assez, assez simples, assez faciles à deviner. Elles reposent sur l'assimilation progressive entre l'accès au juge, le contrôle juridictionnel et l'état de droit. Le contrôle juridictionnel serait la condition sine qua non de l'état de droit. La doctrine des questions politiques, elle, est restée largement à la marge de ce mouvement. Elle ne s'est pas inscrite dans un mouvement de soumission croissante du politique au droit. Tout au contraire, elle prétend maintenir une sphère d'action propre aux gouvernants, une marge de manœuvre propre aux organes politiques. Il y a donc là une apparente contradiction entre la doctrine des questions politiques et la conception contemporaine de l'état de droit. Pour autant, et c'est là tout l'intérêt de cette doctrine, le maintien de cette zone préservée de toute intervention juridictionnelle peut être présenté comme le moyen de répondre à d'autres impératifs, et des impératifs qui sont peut-être tout aussi importants et fondamentaux que la notion d'état de droit. Elle permettrait de préserver la volonté des électeurs en n'entravant pas la volonté majoritaire qui s'exprime à travers la loi ou même à travers les décisions des gouvernants. Ce faisant, la doctrine des questions politiques participerait à garantir l'aspect formel de la démocratie qui avait pu être éludé, ou du moins passé au second plan, en raison d'une focalisation peut-être excessive sur l'importance du contrôle juridictionnel et sur l'état de droit qui est donc dont elle est le corollaire. La doctrine des questions politiques, en neutralisant l'image du jugement, permet finalement une conciliation entre démocratie et contrôle juridictionnel. C'est là sa fonction spécifique. Donc voilà où j'en arrivais à la fin de ma première partie. J'ai démontré la manière dont la doctrine des questions politiques participe à une démarche plus large qui consiste à asseoir une image apolitique du jugement. On aperçoit déjà ici le caractère potentiellement stratégique de cette doctrine, le caractère stratégique que peut revêtir cette doctrine pour les juges, plus précisément. Et c'est cet aspect que j'ai cherché à creuser dans une seconde partie qui était intitulée « La doctrine des questions politiques, outil d'appréhension du rôle du juge dans la définition du système constitutionnel ». Donc la doctrine des questions politiques, outil d'appréhension du rôle du juge dans la définition du système constitutionnel. Donc, je m'étais arrêtée au constat suivant. Je m'étais finalement essentiellement concentrée sur la jurisprudence et je l'avais abordée dans cette première partie de façon relativement peu critique. Pour le dire autrement, j'avais pris les discours des juges pour ce qu'ils étaient. C'est par ce biais qu'il avait été possible de démontrer que l'immunité des questions politiques est un rouage essentiel de l'élaboration apolitique du jugement. Dans une seconde partie, j'ai cherché à renverser cette perspective parce que j'avais déjà l'intuition que la doctrine des questions politiques ne pouvait pas simplement être comprise comme l'emblème de la séparation du droit et du politique. Tout au contraire, il m'est apparu qu'elle pouvait également constituer un puissant révélateur du caractère politisé du jugement. Pour démontrer cela, je me suis alors tournée plutôt cette fois-ci vers la réception doctrinale de la jurisprudence en la matière. Là, c'est véritablement la confrontation entre la jurisprudence et les tentatives de rationalisation doctrinale qui, à mon sens, a été la plus fructueuse. Ce que l'on constate, pour le dire très simplement, succinctement d'ailleurs, c'est que les auteurs britanniques, américains comme français ont un même réflexe lorsqu'il s'agit de présenter la doctrine des questions politiques. Ils le font par le biais de l'énumération des cas. Au mieux, ils soulignent l'existence des deux grands domaines que je mentionnais au tout début, les relations internationales et les rapports entre organes constitutionnels. Mais il vous sera très difficile de trouver véritablement des critères précis et arrêtés de la doctrine des questions politiques. Ce que tout cela reflète, c'est qu'il existerait donc bien une distinction entre politique et juridique. Ça, la doctrine ne le remet pas en cause. Pour autant, le tracé de la frontière entre ces deux domaines reste largement sujet à controverse. Cette incertitude, elle a conduit les observateurs à fournir une variété d'explications à la doctrine des questions politiques. L'un des objectifs centraux de cette recherche, et d'ailleurs un des points qui, moi, personnellement, m'a le plus intéressée quand je faisais ma thèse, notamment parce que j'ai trouvé ça nulle part ailleurs, ça a été de rationaliser ces explications doctrinales, qu'elles viennent d'ailleurs des États-Unis, de l'Angleterre ou de la France. Cette mise en ordre de la doctrine, elle a été fructueuse sous plusieurs aspects. Elle l'a d'abord été parce que, je vous le disais en introduction, elle a permis de dégager des constantes dans les approches proposées au sein des différents systèmes étudiés. Je pourrais peut-être y revenir plus tard, mais pour le dire rapidement, dans chacun des trois systèmes, on observe globalement deux grands courants d'explication de la doctrine des questions politiques. D'un côté, on trouve les tenants de ce que j'ai appelé les théories juridiques, c'est-à-dire ceux qui ont envisagé la doctrine sous l'angle uniquement de la compétence du juge. Il s'est agi, autrement dit, de démontrer l'existence d'attributions constitutionnelles ou législatives qui justifieraient la décision du juge de ne pas trancher les questions qualifiées de politiques. Donc, dans ces théories juridiques, le juge est en quelque sorte contraint d'identifier une question politique. Il est juridiquement contraint de le faire. De l'autre côté, on trouve les partisans des théories prudentielles, c'est la reprise du terme anglo-saxon, qui, quant à eux, ont pris donc le contre-pied de ces explications, puisqu'ils ont présenté l'injusticiabilité de ces questions politiques comme la simple résultante d'un choix du juge. Donc ça, c'est deux grands courants qu'on retrouve dans les trois laboratoires d'études. En dépit de ces constantes, les doctrines anglaises, américaines et françaises se distinguent par la place qu'elles ont accordée à chacune de ces approches et également par le moment de leur émergence. Donc l'analyse doctrinale a ainsi été riche d'enseignements sur les conceptions du contrôle juridictionnel propre à chaque culture juridique. Outre ce premier apport, le second intérêt de cette mise en ordre des analyses doctrinales a été de mettre en lumière des difficultés communes. Après avoir démontré la faiblesse ou les limites de chacune des thèses en présence, j'ai pensé qu'il était nécessaire de chercher à comprendre pourquoi la doctrine des questions politiques demeurait finalement encore une énigme pour les commentateurs. J'ai proposé deux explications. La première, à mon sens, la première explication, c'est celle d'une focalisation excessive de la part de la doctrine sur l'acte attaqué ou sur l'objet du litige, aux dépens d'une réflexion sur la norme de contrôle mobilisée. C'est-à-dire qu'en gros, à l'évidence, sans même que ça apparaisse de manière explicite dans la doctrine, les auteurs ont tendance à rechercher le critère de la question politique dans l'acte qui est attaqué ou l'objet du litige, sans s'intéresser finalement, ou du moins très très rarement, à la question de la norme de contrôle qui est mobilisée. La deuxième raison de l'impasse, selon moi, pourrait tenir aux potentielles incohérences d'une approche excessivement essentialiste de la notion de politique ou de la notion de juridique. Une analyse plus globale de la jurisprudence a aisément démontré les limites de cette approche essentialiste, puisqu'effectivement, si on élargit l'enquête, si on va au-delà des cas où sont reconnues des questions politiques, ce qu'on remarque, c'est que les juges acceptent parfois de contrôler des litiges dont l'objet revêtait indéniablement une coloration politique. Ces deux critiques qui ont été formulées peuvent être synthétisées de la façon suivante. Les commentateurs ont repris, sans véritablement la questionner, l'approche dichotomique du droit et du politique, telle qu'elle avait été construite par la jurisprudence. Une telle attitude a conduit à éluder le caractère hybride des litiges de droit constitutionnel. Et finalement, l'énigme des questions politiques apparaissait comme une mise à l'écart, sans doute, du moins à mon sens, trop hâtive d'une approche plus ouverte du droit constitutionnel, une approche qu'on pourrait effectivement qualifier de droit politique. Donc, à ce stade de ma recherche, l'étude du contentieux et de la doctrine qui est relative avait permis de remettre en cause un poncif des discours contemporains sur le droit. Ce poncif, c'est celui d'une opposition entre droit et politique, opposition à laquelle se superpose celle de la décision juridictionnelle et de la décision émanant des organes politiques. Une fois débarrassée de cette vision dichotomique, l'identification d'une question politique devait nécessairement être envisagée beaucoup plus simplement, beaucoup plus directement, comme un label attribué par les juges, leur permettant de décliner leurs compétences. De ce point de vue, la qualification de question politique, la qualification de politique même tout simplement, mérite d'être appréhendée sous un angle instrumental plutôt qu'essentialiste. Si elle semblait à même d'expliquer les évolutions de la jurisprudence et les hésitations de la doctrine, cette explication en termes de label, elle peut bien évidemment paraître décevante. Enfin, je peux entendre qu'elle puisse apparaître comme décevante. Donc, à une approche uniquement critique, il fallait à présent chercher à adopter une perspective constructive. Et donc, c'est là un petit peu, si vous voulez, à la fin de ma thèse, la phase prospective, si on peut dire. Et un retour à la jurisprudence s'est avéré sur ce point tout à fait utile. Il apparaissait désormais possible de voir à quel point la localisation de la frontière entre droit et politique pouvait permettre aux juges de façonner l'état des rapports entre les organes constitutionnels. On pourrait le dire autrement, la doctrine des questions politiques peut permettre aux juges de façonner la réalité concrète du principe de séparation des pouvoirs. Concrètement, deux conséquences à l'usage de la doctrine des questions politiques ont été soulignées. La première, c'est la garantie d'une marge de manœuvre particulière de l'organe exécutif dans certains domaines qui lui sont traditionnellement réservés. Et la seconde conséquence concrète, c'est l'affirmation de la légitimité du juge dans le système constitutionnel. Les conséquences concrètes de l'apposition du label politique, par opposition du label juridique, sont importantes dans le sens où elles permettent de mieux comprendre l'équilibre qui se noue aujourd'hui entre les organes constitutionnels. Pour autant, ce n'est qu'en adoptant une perspective plus globale qu'apparaît l'apport d'une approche instrumentale plutôt qu'essentialiste de la doctrine des questions politiques. Elle permet, pour le dire simplement, de comprendre les raisons du maintien d'une présentation dichotomique du droit et du politique, alors même qu'à l'heure actuelle, tout semble interroger la pertinence de cette vision dichotomique. Au-delà de la difficulté des juristes à fournir des critères de définition du droit, la réalité des problèmes auxquels sont amenés à se confronter les juges témoigne avec netteté du caractère hybride du droit constitutionnel. L'invocation des sources du droit, la rhétorique spécifique des juges et l'existence de procédures particulières ne parviennent pas à masquer le fait que le contrôle juridictionnel n'est qu'une traduction en termes juridiques de problèmes qui touchent nécessairement à l'exercice du pouvoir et qui donc sont politiques au sens large du terme. Puisqu'ils conduisent souvent à interroger les choix effectués par les organes gouvernementaux et parlementaires, ils peuvent même être qualifiés de politiques dans un sens plus restrictif. La récurrence des débats sur la place du juge et l'étendue de son contrôle en constitue sans doute la meilleure des preuves. Si les recherches menées au sein de cette thèse n'apportent, je m'en doute, certainement aucune solution à ce dilemme intemporel, j'espère qu'elle aura pu au moins permettre de mieux comprendre la longévité de ces débats. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps.